Bien, bonsoir à toutes et tous. C'est un intermède dans notre printemps contre-champ, hein, dont vous voyez la grande rétrospective dont vous venez de voir la bande-annonce. Et c'est une séance spéciale qu'on est très heureux d'accueillir, celle de « J'ai rendez-vous avec un arbre » de Benjamin Delattre, à divers titres, aussi parce que Benjamin est un spectateur assidu de notre lieu. Alors c'est encore un plaisir supplémentaire de le retrouver cette fois dans la peau du cinéaste. Et c'est un film qui, avec mes collègues programmateurs et actrices, Harry Boss et Marion Bonneau, que l'on suit, voilà, qu'on avait envie de montrer depuis un certain temps. J'en ai assez dit et je vous demande d'accueillir le cinéaste Benjamin Delattre. Pour qu'il se remette des applaudissements, je vais juste dire que pour une fois, d'habitude, on fait ces séances spéciales sans échange, mais là, on fera un échange à l'issue de la projection. Benjamin y tenait beaucoup et on sera très content de le faire. Et maintenant, si tu as repris ton souffle, tu vas pouvoir dire un mot.
Je tenais pas forcément au débat, mais on verra. Si le film
peut
plaît,
pas,
si le film
on plaît. Peut, on peut pas se contredire comme ça en voilà. Public.
Bon, mais je suis obligé de lire parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc, merci d'abord à tous et toutes d'être venus, si nombreux, ça me touche beaucoup. Je commence par le plus concret, vu le nombre de personnes que nous sommes, on a été obligé de changer le lieu pour nous retrouver après la projection, et ce sera dans le très grand café Le Siècle Beaubourg, 141 rue Saint-Martin, donc exactement en face, à la sortie du Centre Pompidou, sur la droite, en remontant la pente, qu'on se retrouvera. Je vais être trop long de toute façon, donc c'est obligatoire. Mais ça vaut le coup, je crois. Donc je voudrais commencer par remercier Valentine Roulet, que j'ai vue depuis la cabine, que je n'ai jamais rencontrée, mais qui dirigeait en 2018 le FAIA, qui a donné donc une aide à l'écriture à ce film. Et c'est très touchant de vous voir ici. Je voudrais aussi remercier les festivals qui ont choisi ce film pour le projeter au Mexique, au Portugal et en France. Et j'espère que bientôt le film sera montré en Amérique du Sud, au Chili, au Pérou. Je voudrais aussi remercier vivement Racha Salti qui a choisi ce film pour la Lucarne d'Arte, où le film sera diffusé à la fin de l'année, au début 2025, en France, en Allemagne et en Europe. Et évidemment, je voudrais remercier ensuite Arnoé, Marion Bonneau qui est là-bas, Harry Boss qui a vu le film en premier, quand vous faisiez votre rétrospective sur le Chili, il me semble. Et évidemment, Bianca Mitterreger, Florent Hemel, Jérôme Fèvre, Alexis Fouenant et toute l'équipe de la Cinémathèque Documentaire qui nous accueille en ces murs mythiques pour moi, en effet, parce que je passe un certain temps ici. Et je profite aussi de vous avoir pendant quelques minutes pour vous dire que la même troupe qui a fait « J'ai rendez-vous avec un arbre » a fait aussi un film qui s'appelle « Tahiti, les jours du retour » que certains d'entre vous ont vu. Et qui sortira dans un choix de salle française et à Paris au Saint-André-des-Arts le 11 septembre prochain. Et donc, si vous voulez venir aussi, j'en serai très heureux. Et un autre film au cœur de la musique composée et interprétée par Michel Portal, qui sera terminé cet été, qui s'appelle « Quelques notes sur la liberté ». Et donc je remercie vivement Léane Wendling qui doit être dans la salle et qui nous a rejoint il y a quelques jours pour distribuer ces trois films. Vous avez 20 ans, vous cherchez un sens à toute chose, vous cherchez sans doute à fuir et dans votre fuite vous cherchez des refuges, vous vous intéressez précisément à ce qui n'intéresse personne, c'est comme ça que vous vous retrouvez un jour devant une maison en ruine, c'est une vieille histoire mystérieuse on vous dit. Vous entrez dans la maison une fois puis deux, vous y passez des hivers, des bouts d'hiver, vous vous fascinez pour ceux qui ont vécu dans cet endroit et pour Odello. Ce Chilien guidé par une seule passion, la peinture. Cette vie vous rassure, elle semble avoir été simple et logique. À l'intérieur de la maison, il n'y a plus aucun souffle, plus que des objets empilés, restés là, à vous en crever le cœur. Vous revenez au printemps avec des amis, cette fois-ci, pour chasser les fantômes. Nombre d'entre eux sont ici, d'ailleurs, je crois, je les ai vus d'en haut. Simon Kessler, j'espère qu'il est venu. Sarah Ferry, Mathieu Lomazzi, Ignacio Albornoz, Félix Lanzmann. Ses amis repartent toujours de la maison plein de poussière, mais vous, vous restez coincé dedans, comme si la maison allait s'écrouler dès lors que vous la quitterez. D'autres amis vous mettent en garde, on se fout de cette maison. Mais c'est trop tard, vous vous sentez condamné à la reconstruire. Vous criez à l'aide tellement fort qu'un ami vous entend, l'ami des grandes histoires de camaraderie, celui qui ne vous lâche jamais et qui en même temps ne cherche jamais à vous plaire, Baptiste Amigorena. Si on peut l'applaudir parce que... Avec Baptiste Amigorena, vous posez les fondations de la maison, pierre après pierre, en vous promettant que pour que la maison existe, il ne faudra pas la reconstruire n'importe comment. Tout ça vous donne l'illusion de réparer cette maison qui s'écroule chaque fois plus entre vos passages. Vous avez la matière d'un film, mais il vous manque de la philosophie et de la force. Vous rencontrez alors naturellement Sophie Faudel, qui est ici et que je ne sais pas où elle est là. Dans le trio, c'est la seule qui sait vraiment ce que c'est que faire un film. Et elle non plus, elle ne vous lâchera plus. Si la maison existe encore aujourd'hui, c'est grâce à des esprits et des cœurs comme Baptiste et Sophie. Merci. Fort de ces deux compagnons, vous vous mettez à aller partout où Edaldo, l'occupant de la maison, est passé. Ça vous emmène loin. Mais vous comprenez vite que tout était déjà dans cette maison. Comme dans ces endroits où le cinéma vous a déjà emmené et que vous semblez reconnaître comme un décor déjà vu. Vous rencontrez alors, dans un cinéma, Renaud Personnaz, qui est là, j'espère, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, on peut l'applaudir ici, s'il vous plaît. Au bar du Luxor, mais pas le bar du Luxor de la chanson, enfin c'est peut-être le même, mais en tout cas c'était le cinéma, le Luxor, et qui lui vient remettre l'électricité et éclairer la maison comme vous ne l'avez jamais vu. Avec Renaud et Baptiste, vous passez des jours entiers dans la maison. Elle ne vous a jamais paru aussi vraie, aussi vivante qu'avec eux. Vous faites entrer alors Amélie Canini. Elle se met à écouter plus et à écouter ce que vous n'aviez qu'entendu. Et puis Rémi Berge, lui, ne veut rien entendre. Il n'est là que pour les couleurs et il se met à peindre les murs avec Renaud. Vous vous exécutez avec eux et vous ne reconnaissez déjà plus la maison. À une passante qui sort du cinéma, vous proposez d'entrer dans la maison. Elle comprend tout de suite de quel type de maison il pourrait s'agir, et c'est comme ça qu'Isabelle Poutvin finit avec vous la maison et la sublime elle aussi. Et j'espère qu'elle est là elle aussi, si on peut l'applaudir, voilà. Voilà. Vous avez donc réuni des dizaines de personnes autour d'une chose pourtant immatérielle, qui n'existe que quand elle est projetée, comme ce soir. Construit une famille de personnages, vous êtes devenu vous-même un personnage du film. Vous êtes le 29 mai 2024, plus de 10 ans après la découverte de la vraie maison, et alors vous vous dites que cette maison aura été votre petite utopie de cinéma. Vous pouvez enfin vous libérer de votre hantise de la vraie maison qui a pourtant continué de s'écrouler année après année. Et cette maison cinéma reconstruite, c'est le film que vous allez voir. Est-ce que j'accepte un débat seulement si Isabelle accepte de venir et Renaud Personnaz aussi? Mais s'ils ne veulent pas du tout, ils ne sont pas obligés. On leur donnera le micro. On vous donnera le micro alors. Et je ne sais pas si Amélie a pu venir. Elle n'est pas là.
Alors, la lumière quand même. Si. Peut-être la première question, d'ailleurs on le voit très bien en générique, il y a ce terme d'enquête. Alors on ne va peut-être pas vous demander de nous raconter jour par jour, heure par heure, mais quand même de nous restituer un peu les grandes étapes, parce que c'est un... Si on devait peut-être le rattacher à un genre, rattacher le film à un genre, il y aurait le portrait, il y aurait l'enquête. Oui. Alors peut-être commençons par l'enquête, oui. Si c'est possible.
Ben, ça a été trop longtemps une enquête avant de devenir un film. C'était ça le problème. C'est que il y avait bon, ça s'arrête jamais. Et donc je sais pas si on entend, mais faut surtout en faire autre chose. Enfin, pour moi, parce que c'est trop énorme. C'est trop énorme, mais le film oblige à simplifier, limiter, faire des raccourcis. Et dans la salle, il y a des gens qui ont connu Dallo, et je suis sûr que c'est ceux qui sont partis. Non, j'exagère. Ouais. J'exagère. Ouais. Non, mais il y a quelqu'un qui est parti que je regrette, qui venait d'Alba la Romaine.
Et... Question peut-être un peu plus simple.
Et... Non.
Non, mais parce que c'est con. Quand est-ce que l'enquête a pris la forme d'un film? Enfin, en tout cas, quand est-ce que la forme film est devenue.
Ouais, quand c'est devenu collectif.
C'est impossible.
Parce que quand c'est solitaire, c'est jamais un film. Et à ce moment-là, c'est drôle parce que justement, avant de rencontrer Baptiste puis Sophie, j'avais beaucoup tourné à la main, tout ça. Et il en reste un tout petit peu dans le film, mais vraiment, je ne vais pas dire combien. Mais et finalement, c'est ce côté sorti de la poussière qui a permis de, enfin cette sortie de. De cette charge et de, ouais, je sais pas si, comment tu répondrais?
Question difficile. Non, franchement, là-dessus je peux pas, mais parce que moi je suis arrivé à partir du moment où c'était un projet de film. Oui. Donc voilà.
Alors Sophie, peut-être en tant que productrice là, et de transformer l'enquête et l'idée dans une forme film, vous avez certainement un rôle prépondérant.
C'est ça le mystère des films, c'est-à-dire qu'ils existent dans la tête de chacun assez différemment. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est. On travaille, on persévère, parce qu'il faut beaucoup de persévérance pour arriver à faire des films. Et puis tout d'un coup, avec beaucoup d'appui, d'aide, de soutien, le film existe, mais à chaque film, chaque histoire, et celui-là, je pense qu'il est parti d'un mystère et qu'il arrive à ce que l'on voit ce soir. C'est ce que je pourrais dire, en fait, moi. Parce que les techniques de production, je pense qu'il n'y en a pas. À chaque film, sa production propre. Voilà.
Oui, et surtout celui-ci, qui part d'un lieu... De cette maison abandonnée, et puis qui part dans un tournage à New York, etc., qui effectivement est quelque chose d'être soi-même peut-être surpris en tant que cinéaste, où le film nous mène. Voilà.
C'est vrai que par rapport à New York, je ne sais pas pourquoi, parce que quand c'est un des premiers tournages que j'ai décidé. De façon assez impromptue, en me disant que voilà, il fallait qu'on sorte un peu de la maison, de l'histoire de France, et que la personne la plus importante à filmer en premier, une fois que moi j'étais là et que l'aide du CNC était arrivée, c'était d'aller rencontrer le fils de Daldo à New York. Et en fait, c'est vraiment... c'était très important, en fait, pour toute l'histoire. Mais c'était une proposition de départ, en tout cas, quand moi, j'ai commencé. Voilà.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce propos. Est-ce que tu avais pensé que ce film t'emmènerait à New York, par exemple, de la maison poussiéreuse à
Non, c'est vrai que quand on revoit le film terminé, oui, il y a énormément de chemins qui menaient nulle part et qu'on n'a pas gardé, heureusement. Mais oui, il y avait des lieux comme ça, c'était quand même assez extraordinaire de passer d'une lettre à ce téléphérique, qui est, j'en profite puisque Renaud ne veut pas venir pour le citer, cette séquence dans le téléphérique de New York. On part donc d'une photo retrouvée dans la maison et ça nous emmène à New York. Et en plus, il y a cette espèce de mouvement qui rappelle le mouvement qu'on a trouvé avec Baptiste dans les pellicules. Parce qu'en fait, un des enjeux du film, c'était de mettre du mouvement dans des images fixes. Et on a essayé qu'il y en ait presque toujours, quoi. Du mouvement ou du rythme. Quand ce n'est pas du mouvement, c'est du rythme. C'est toutes ces séquences de diapositives où Daldo a pris en photo ses œuvres. Et donc, ça, c'était un des gros enjeux, quoi.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Si tout le monde en a une, on n'est pas couché, mais s'il y en a, alors oui. Alors je vais faire le tour par là.
Bonjour. Déjà, merci pour ce film parce que c'était vraiment impressionnant. Et j'avais une question très simple, c'était de savoir qu'est-ce qui était devenu concrètement les œuvres de Daldo après que vous les aviez retrouvées avec son fils et votre père. Qu'est-ce qu'elles sont devenues maintenant ?
La même chose. Elles sont encore dans les conteneurs. Elles sont encore dans les conteneurs, oui. Mais bon, si le film a été possible, il sera bien possible un jour de les sortir, mais... Il y a des galeristes dans la salle et ils savent à quel point c'est un travail à part entière. C'est encore un étage au-dessus de la fusée et j'espère que ça se fera. Ouais, j'espère que ça se fera. Ouais.
Il y avait une autre. Je vais essayer de respecter.
Il y a aussi des tableaux en Amérique latine perdus. Alors ça, ce sera encore plus intéressant de voir si. Le film donne des idées à des gens de dire j'ai telle toile dans mon jardin.
Ouais, mais aussi, chaque personnage du film possède des tableaux chez lui. Et du coup, c'est une étape à chaque fois, on va chez la personne. Et ça, c'est assez.
Dans le film, ouais, ouais. Ça a déjà commencé parce qu'il y a quelqu'un qui est là dans la salle, je crois, qui s'appelle Virgile Novarina et qui m'a écrit alors qu'il n'avait pas vu le film, mais il a entendu parler du film et il m'a envoyé toutes les toiles que sa famille possédait parce qu'il est donc, si je ne dis pas de bêtises, le petit-fils de Maurice Novarina, un architecte justement des années 60 et qui avait commandé à Daldo des vitraux. Et Daldo lui avait offert des tableaux et lui m'a envoyé les photos et les mesures de ce tableau pour compléter le catalogue raisonné. Et donc voilà, c'est ce genre de correspondance qui naît avec le film.
Il y a une...
Merci beaucoup. Je voulais justement vous demander s'il était possible sur le net de pouvoir diffuser votre film pour des gens qui connaissent le métier des toiles, des peintures. Merci beaucoup.
Il sera sur Arte d'ici 2025. Voilà. Mais avant ça, on va essayer de faire d'autres projections parce que c'est quand même mieux au cinéma.
Il y a une autre question là-bas. Je fais mon exercice.
Bonsoir, moi je voulais juste apporter un tout petit témoignage, j'espère que Benjamin tu m'en voudras pas de prendre la parole, et je le fais avec en fait pas mal d'émotion. Moi j'étais avec Benjamin, on a étudié ensemble, et au terme de nos études, je pense que c'était vers septembre 2012 peut-être, il y a plus de 12 ans, je crois que c'est ça. Hein. J'ai un souvenir très précis, c'est de m'être assis à côté du jardin d'acclimatation avec Benjamin, et il m'a dit j'ai une idée de film. Et pour répondre à la première question que vous aviez posée, je crois que c'était certes une enquête, mais en fait c'était tout de suite un film. C'était tout de suite un désir de film. C'est juste que, et j'espère que tu m'en voudras pas de parler un peu de ça, au début, on savait, enfin, donc j'ai commencé un petit peu à aider Benjamin pour son projet, et on savait pas du tout où on allait, tu savais pas du tout où t'allais. On a fait énormément de tournages, d'images qu'on jetait à la poubelle. je me rappelle d'un... J'espère que je suis autorisé à raconter cette anecdote, mais il y a eu un tournage en avion. On a fait décoller un avion. Ça a coûté plusieurs centaines d'euros. Pour filmer la maison.
Un trajet en ULM. Mais c'est vrai que c'est pas sympa de dire ça, parce que le bilan carbone du
non,
film...
Non, mais c'était en 2012, on n'avait pas... On n'était pas encore dans ces questions-là.
Un ULM, c'est 200 euros un trajet en ULM depuis l'aéroport d'Orléans.
Bon, bref. Et donc, Benjamin, super content, me dit, on va faire un tournage en avion. Moi, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette idée encore? Et je récupère les images sur un disque dur et c'était tout flou. Je suis désolé vraiment de raconter ça, mais la fin de l'histoire est positive. C'est que moi, il y a eu un moment donné, pour être tout à fait honnête, et vraiment aujourd'hui, je le regrette, j'en suis désolé, mais il y a eu un moment donné où j'ai arrêté d'y croire. Je ne comprenais pas où t'allais, en fait, avec cette histoire de Daldo. J'avais trouvé le pitch super intéressant, ce peintre oublié dont toutes les toiles étaient dans deux conteneurs, mais je ne voyais pas où ça allait. Et je crois que toi non plus, tu ne voyais pas où ça allait. Et pourtant, t'as continué d'y croire. Tu voulais y aller quand même, en fait. Et on a arrêté de travailler ensemble, mais t'as persévéré. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, t'avais raison. Que de ce chaos initial est née une œuvre. Et je suis très ému de l'avoir ce soir et je voudrais t'en féliciter. Voilà.
J'en profite pour remercier tous les gens comme Simon en premier, avec qui j'étais à la fac, parce que comme j'ai commencé par le dire, j'ai commencé ce film, j'avais 20 ans, et depuis j'ai plus 20 ans, et donc vraiment, c'est sûr que c'est une folie d'avoir fait, et il n'y a aucune... c'est pas rationnel, mais...
Alors, côté montage, les images du LM sont restées jusqu'à très très tard. On a vraiment tout essayé, mais...
Ça saccadait un petit peu, mais ouais. Si tu continues, Simon, on va les remettre.
Oui.
Bonsoir. Je me demandais comment est-ce que le film avait été reçu par votre famille.
Ils sont dans la salle, donc. Les deux personnes les plus concernées, c'est-à-dire donc ma grand-mère et mon père, justement, c'est grâce à leur mutisme que le film a existé. C'est-à-dire que s'ils m'avaient raconté. Enfin, ça a créé un mystère. Enfin, le mystère existait déjà, mais ça l'a amplifié, parce que je pense que Daldo l'avait fabriqué pour toutes les raisons qu'on peut imaginer dans le film. Mais je me souviens précisément, parce que je l'ai montré à ma grand-mère, on avait fait une projection test au Champeau, juste pour le mix, et j'ai relu la note qu'elle m'avait dite. Mais c'était deux phrases, mais parce qu'elle a plus très bien la mémoire récente. Elle avait presque. Enfin, le lendemain, de toute façon, elle avait oublié qu'elle avait vu le film, ce qui m'a évidemment bouleversé. Mais elle m'a dit ouais, je te remercie, mais je vais retrouver la formule, mais je ne peux que te remercier. Elle m'a dit ça. Voilà. Mais elle m'a rien dit d'autre parce que c'est son style, quoi. Elle aussi, elle est taiseuse. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite aussi de cette question pour remercier. Je vois qu'il y a des amis de ma grand-mère qui comptent et qui ont beaucoup compté pour elle. Je vois Marie et Luc Weisman, qui est donc... Luc était un élève de cette potière quand elle était dans le 13e arrondissement. Et au fond de la salle, j'ai cru apercevoir Roselyne André avec son fils Jean-Baptiste André, qui sont là. Je crois que j'ai oublié de mettre Jean-Baptiste au générique, j'ai encore le temps de l'ajouter. Non, vous y êtes, ah bon. Parce qu'en fait, Roselyne Andrés, elle était bibliothécaire, si je ne me trompe pas, à la bibliothèque de Saint-Maurice. Et j'ai des photos qui ne sont pas dans le film, mais qui sont géniales, ou que vous avez dû prendre, de Deldo, toujours habillé avec un raffinement incroyable, même s'il vivait dans ce studio rempli de toiles. Et à la fin de sa vie, c'est vous qui me racontiez que il allait voir toutes les conférences de la bibliothèque municipale, il empruntait tous les magazines, mais il avait une curiosité infinie, quoi. C'est-à-dire comme si, je sais pas de quand ça date, mais c'était bien chauffé, dit Baptiste. Ouais. Déjà, il se réchauffait, mais il y avait un truc de, c'était un, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très fort de l'imaginer dans la bibliothèque municipale de Saint-Maurice après tout ce qu'il avait traversé. Et en plus, il était logé dans ce qui était la maison de la Croix. Il est très, très fier, mais aussi, je crois, très peu apprécié par le maire de Saint-Maurice, parce qu'ils ont cherché à l'expulser pendant plusieurs années et ils ont fini par réussir. Et Jean-Baptiste André, donc le fils de Roselyne André, il a été, comme beaucoup de gens, dont mon père, dont Jean-Baptiste Manessier, un autre Jean-Baptiste, qui me fait l'honneur et le plaisir de venir... ce soir, il a été parmi d'autres personnes comme un fils, quoi, pour Deldo, justement. Deldo, il a, enfin, c'est un peu de la psychanalyse de comptoir. Il y a des psychanalystes dans la salle en plus, donc, mais des Argentins, donc, enfin bon, ça fait un, mais c'est. C'est pour dire juste que je crois vraiment qu'il a cherché à transmettre quelque chose parce que on s'est posé la question avec Baptiste de savoir si c'était s'il avait prévu de ne pas retourner au Pérou et au Chili, mais je crois pas. Je pense qu'il a il a cru à un mythe qui s'est effondré petit à petit, parce que quand même il a vécu les grandes années de la seconde école de Paris. Mais petit à petit, le film en fait raconte ce que c'est le rêve d'un peintre et comment il se fracasse contre le réel. Et le réel, c'est que autour des années 60, la peinture européenne perd de la valeur et, pour le dire vite, on commence à regarder vers les États-Unis. Et le dernier peintre qui a eu le prix de la Biennale de Venise, tu me corriges, Jean-Baptiste Manessier, c'est son père, Alfred Manessier. Et Deldo, il arrive à ce moment-là, donc au-delà de l'histoire de la peinture, peu importe, à la limite d'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa peinture, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour un peintre ou pour quelqu'un qui produit des choses... artistique ou inutile, gratuite, qui produit juste de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire que réussir ? Et je trouve qu'il a raté en partie de son vivant, mais en même temps, il est allé au fond d'une recherche et de sa volonté de peindre et de rencontrer ces gens. C'est ça que je trouvais beau dans ce personnage de Deldo. Ouais.
Oui, c'est d'autant plus intéressant ce film que c'est très difficile de faire un film sur la peinture. Moi, j'avais été très frappé de voir le film d'Adèle Carrère sur Goya, et je trouve que là, vous approchez un peu de cette capacité à restituer, au fond, l'image de la peinture au cinéma. Il y a une sorte d'impossibilité. Là, vous avez réussi à le faire. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les quelques tableaux qu'on a pu voir, c'est qu'à lui tout seul, il est l'histoire du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il part du surréalisme, il passe par Paul Klee, et il arrive à Miro, et Le Moal, Manessier, et je trouve qu'il a, à lui tout seul, c'est au fond une encyclopédie de la peinture du XXe siècle. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sur le plan historique, je trouve que c'est passionnant, même si on voit qu'une trentaine de toiles, on ne peut pas juger complètement, mais je trouve qu'il y a une richesse. La question que je voulais vous poser, c'est que pour faire 1000 toiles, il faut 1000 pots de peinture. Et comment est-ce qu'on peut faire autant de toiles dans une misère si on ne vend jamais un tableau ?
C'est une très bonne question. Et la réponse, à mon avis, la plus évidente, c'est que c'est Consuelo. Consuelo, d'abord, parce qu'elle, elle travaillait, donc elle vendait des poteries et de l'artisanat latino-américain, donc d'abord à Alba la Romaine et ensuite dans les Pyrénées, près de Céret. Et ensuite, ma grand-mère aussi. Enfin, c'était quand même quelqu'un d'entretenu. Et puis aussi, mais là, d'autres personnes dans la salle répondraient sans doute mieux que moi. Je pense qu'ils fabriquaient aussi en partie. Moi, dans la cave de Sophie, j'ai des qui hébergent une partie des archives qui sont dans le film. J'ai des palettes, j'ai encore des pots de peinture, etc. Donc, il faudrait l'analyser pour comprendre si c'est lui ou non. Mais en tout cas, financièrement, c'est sûr que il était entretenu. Il était entretenu et il vendait ses tableaux trop cher pour qu'ils soient achetés. C'est-à-dire qu'il y avait quelques acheteurs, mais c'était pas du genre à brader le tableau pour payer son pot de peinture. Ouais. Et après, je le dis aussi dans le film, il avait des mains d'or. Il était capable de construire une maison, de réparer. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, Odaldo, c'est un rapport, ce qu'on voit aussi dans l'archive où il parle. Il a un rapport aux objets, à la nature qui est entier. Quoi. C'est pour ça que c'est pas un film seulement. Mais j'apprécie infiniment ce que vous avez dit sur le film. Je crois aussi que c'est cette dimension de. Il se retrouve à croiser des gens, enfin, chaque décennie, il raconte chaque décennie du siècle. Mais je trouve qu'il est au-delà même du peintre, c'est ce fameux mystère dont parlait Sophie Faudel, c'est quelqu'un qui avait de la magie au bout des doigts. Quoi. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Ouais.
Oui, Benjamin. C'est une question au cinéaste en toi. C'est pas du tout une boutade, c'est pas du tout une provocation. Même si ça peut le paraître, là je fais monter la tension. Non, est-ce que tu t'es demandé sérieusement si dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans, tu auras envie de faire à nouveau un film sur Odaldo, sur ce personnage qui t'habite, qui te hante, voilà, avec le regard de quelqu'un qui aura traversé des tas d'autres aventures, des tas d'autres épreuves.
Si, oui, je pense que même dès maintenant, en fait, parce que non, mais c'est-à-dire qu'on voit le film aujourd'hui, mais on le referait évidemment. Non, non, mais plus sérieusement, par exemple, il n'y a pas de tournage au Chili, au Pérou. Un film possible serait la recherche d'étoiles latino-américaines. Mais Renaud Personnaz m'avait montré un film que j'avais adoré sur Pirosmani, mais j'en parle moins bien que Renaud, mais peut-être tu pourras continuer à décrire ce film. Mais c'est un film où il remet en scène des tableaux de Pirosmani. Mais c'est plus facile parce que c'est que des personnages, mais Odaldo, cette période-là, latino-américaine, il y a des personnages aussi. Mais un jour, je me suis dit ça, soit à partir des photos qu'on a retrouvées, parce que donc au début du film, en noir et blanc, il y a des reproductions des tableaux d'Odaldo de la période latino-américaine, mais c'est des reproductions, on n'a que les reproductions, c'est des reproductions qu'avait gardées Odaldo, mais on ne sait pas où sont ces tableaux. Et je me suis dit, ces tableaux-là. Qu'on les retrouve ou qu'on les retrouve pas, on pourrait tout à fait les remettre en scène au Chili, au Pérou, mais en même temps tout a changé. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, avec Odaldo, c'est qu'il a connu un Chili qu'on connaît plus, quoi, qui correspond plus, je crois, au Chili actuel. Mais je ne sais pas si ça répond à ça, la question. Mais il faudrait un peu de temps pour faire un autre film sur Odaldo.
Bien. On vous remercie tous les trois. Ah. En écoutant les échanges, il y a la question du portrait, il y a la question de l'enquête, il y a certainement un film sur l'initiation d'un cinéaste, d'un jeune homme aussi, et je crois que ça, c'est aussi une ligne très belle du film, hein, ce roman d'initiation. Voilà. Et donc, ben, on espère des suites et, bon, cinématographiques de celui-ci, mais aussi, bien sûr, beaucoup de films. Et merci encore. Je ne sais pas si tu veux encore répéter le
nom du bar. C'est le Cirque Beaubourg, voilà. Qui est en face, vraiment, voilà. À 100 mètres. Et sincèrement, ça me ferait vraiment immensément plaisir que chacun d'entre vous, qu'on connaît ou pas, vienne, parce que voilà, il est temps de...
Voilà. Pour la capacité du bar.
Mais, voilà. Bon, en tout cas, mais merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.